carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Aujourd'hui, dans Carrefour des Arts, évoquons l'art de recevoir des princes, les plaisirs de la table du XVIIe au XIXe siècle, en compagnie de Nicole Garnier, conservateur en chef du patrimoine au musée Condé du château de Chantilly, à l'occasion de l'exposition « Table princière à Chantilly du XVIIe au XIXe siècle », ouverte depuis le 16 septembre et qui fermera ses portes le 8 janvier 2007. Nicole Garnier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue au micro de Canal Académie.
Merci de m'accueillir.
Alors, pour peut-être commencer notre entretien, pouvez-vous nous présenter ou nous rappeler l'histoire et la particularité de ce haut lieu de mémoire française quand même?
Alors, Chantilly donc est un château à une quarantaine de kilomètres de Paris. Un premier château médiéval dont il ne reste plus rien a été fondé par la famille des Le Bouteiller de Senlis. La grande figure qui s'attache au XVIe siècle à la Renaissance, c'est le connétable Anne de Montmorency, compagnon d'armes de François Ier, à qui nous devons le petit château, dont on disait autrefois que c'était un château de la Loire à 40 kilomètres de Paris. Jolie définition pour Chantilly. C'est vrai que c'est un château de la Loire qui se mire dans les douves de Chantilly. Donc c'est un site assez inoubliable. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le château appartient à la famille de Bourbon-Condé, donc une famille cousine des rois de France. Et après 1830, le château sera hérité par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui donc est le plus jeune fils du roi Louis-Philippe. Et c'est surtout à lui que nous devons le Chantilly actuel, puisque le duc d'Aumale fera réédifier après 1875 ce que nous appelons le grand château, c'est-à-dire une aile du bâtiment qui avait été rasée après la Révolution en 1798 par les démolisseurs, ce qu'on appelait la bande noire. Et le duc d'Aumale donc fera reconstruire cette aile du château pour installer ses collections d'objets d'art. Collection d'objets d'art qu'il a essentiellement réunis pendant son séjour en Angleterre. Il a été exilé de France après la chute de la monarchie de Juillet, après 1848. Et il a donc collectionné de 1848 à 1871 en Angleterre, et puis ensuite en France jusqu'à sa mort en 1897. Eh bien, des peintures, des dessins, des estampes, des photographies anciennes, des livres, manuscrits, notamment les célèbres très riches œuvres du duc de Berry. Mmh. Et donc, tous ces biens très précieux, dans ce château reconstruit, comme un écrin, en fait, qu'il lui a donné, eh bien, tous ces trésors, il les a légués en 1884 à l'Institut de France. Pourquoi l'Institut? Parce qu'il était trois fois membre de l'Institut de France, Académie française en 1871, Académie des Beaux-Arts en 1880 et Académie des Sciences Morales et Politiques en 1889. Donc c'est à ce triple titre que le duc d'Aumale est attaché à l'Institut et qu'il va léguer sa collection. À charge pour l'Institut donc d'ouvrir au public le musée Condé et donc de respecter les clauses du testament, notamment ne pas prêter les collections hors de Chantilly et ne pas modifier la présentation du duc d'Aumale.
Oui, c'est très important, on le verra justement au cours de notre entretien. Donc le château de Chantilly, c'était une résidence de chasse, une résidence de plaisance, un endroit où ont séjourné rois, reines et princes de l'Europe entière et où sont venus de prestigieux invités qu'on va évidemment évoquer. Au XVIIe siècle, les goûts changent, la cuisine évolue et c'est la naissance de la table moderne. Nicole Garnier, est-ce que vous pouvez nous raconter cette évolution?
Bien sûr. Alors, le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est une cuisine extrêmement épicée où on mélange volontiers le sucré et le salé. Et il va y avoir effectivement une rupture au milieu du XVIIe siècle, qui est l'époque où débute notre exposition, l'époque du Grand Condé. Parce que c'est le moment où apparaissent déjà de nouveaux modes de cuisson. Apparaît le fourneau moderne, qu'on appelle le potager.
C'est surprenant,
puisqu'on
c'est
cuit le potage, donc dans de l'eau. Donc, ça va être des nourritures bouillies. Donc, on va respecter des goûts beaucoup plus doux. On va aussi pratiquer une cuisine au beurre, et puis il y a un recul très net des épices. Les seules épices qu'on va conserver à partir du XVIIe siècle, ça va être ce qu'on appelle le paquet, c'est-à-dire notre actuel bouquet garni. Donc on va respecter des saveurs, des viandes, des légumes beaucoup plus naturels qu'auparavant, et on va assister à un recul très net de toutes les saveurs épicées, toutes les épices qui venaient d'Orient, qui étaient extrêmement
lourdes. De nouveaux produits aussi sont introduits.
De nouveaux produits vont être introduits, de nouvelles plantes bien sûr vont venir aussi, et puis de nouvelles manières de table également.
Bien sûr. Qu'est-ce que le service de table à la française à ce moment-là, qui va faire son apparition d'ailleurs au même moment?
Alors le service à la française, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait différent de ce à quoi on est accoutumé aujourd'hui. Les invités sont donc assis autour de leur table, avec devant eux une assiette et des couverts, jusqu'ici rien de nouveau. Mais ce qui est surprenant, c'est le nombre de cloches d'argent, de réchauds, à vrai dire, de réchauds d'argent ou d'or, ou de vermeil, selon la table où on se trouve attablé, qui vont être présentés devant eux. Dans une table à la française, il faut compter à peu près 3 domestiques par invité.
C'est énorme.
Donc il y a un côté très somptuaire dans cette façon de recevoir à la française. Et les invités vont apporter les différents plats par service. Par exemple, on va commencer par un premier service d'entrée. Et les différents réchauds vont être amenés sur la table par les domestiques. Et puis les domestiques vont ensuite lever les cloches d'argent qui recouvrent la nourriture et on pourra découvrir les mets. Et on va ensuite choisir ce qu'on voudra manger. Alors quand on voit les menus de cette époque-là, on se dit mais comment est-ce qu'ils pouvaient manger tout ça ? En fait, ils ne mangeaient pas du tout tout ça, mais ils choisissaient un plat par service. En fait, le service à la française, c'est comme une carte. Aujourd'hui au restaurant, on va choisir un plat en lisant un titre. Eh bien eux, ils choisissaient en regardant sur la table.
Encore fallait-il être peut-être bien situé autour de la table.
Oui, il fallait attendre sinon que le plat tourne autour de la table. Alors, avec son réchaud, et ça pouvait être assez long. Et il paraît qu'on mangeait toujours froid. Donc c'était un des inconvénients de ce service, qui ceci dit était assez rapide, paraît-il. Oui. On passait moins de temps à table que dans les autres pays d'Europe.
Entre deux changements de place, c'est, je crois qu'il s'est coulé à peine un quart d'heure.
C'est ce qu'on dit, c'est ce que nous disent les témoins qui nous ont raconté les choses. Et donc, tout se passe par service. Donc, les cloches d'argent sont apportées pour un service. On se sert. Ensuite, les domestiques remportent le plat et amènent le service suivant. Par exemple, les rots ou rôtis, les viandes. Voilà. Et donc, et ainsi de suite jusqu'à la fin du repas. Donc, quelque chose qui devait avoir quand même une certaine allure, tout ce ballet de domestiques avec ses réchauds d'argent ou d'or.
Et l'idée, c'était effectivement de combiner les plaisirs de la vue, de l'odorat, du goût, bien entendu. Et pour nous mettre l'eau à la bouche, on peut peut-être lire justement un exemple de menu du souper, par exemple, du lundi 28 août 1758. Deux ouailles, deux potages, une garbure, une de santé, des entrées à l'heure de petits pâtés au jus, des langues de mouton, des semelles de faisan, des petits pigeons accompagnés, poussins à l'anglaise, noix de veau glacée, marinade de... Alors, je ne peux pas lire, mais filet d'aloyaux. Ensuite viennent les relevés, un jambon à la portugaise, un quartier de veau, et je ne lis pas tout, des entremets froids, une tourte à la chantilly, une croquante, un baba, des plats de rost que vous avez évoqué. Alors là, on trouve un dindon gras, un coq vierge, un chevreuil, enfin bon. Et puis des entremets chauds, crème grillée, d'artichaut au singara, qu'est-ce qu'on a ? Des choux-fleurs au parmesan, des pâtes de dinde bottées, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, des crèmes veloutées, enfin de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Mais effectivement, les convives ne goûtaient pas tous les plats, mais ils en avaient le choix. Et c'est justement cette évolution c'est la primauté de la diversité sur la quantité. C'est une nouvelle manière de table qui caractérise ce service à la française.
Alors une des particularités aussi du service à la française, c'est que dans ce type de service, comme la table est couverte de cloches d'argent, eh bien nous n'avons ni bouteille ni verre sur la table.
Alors voilà,
ce qui frappe le plus nos visiteurs aujourd'hui lorsqu'ils disent mais comment est-ce qu'ils buvaient ?
Exactement.
Alors, les bouteilles, les vins et les flacons étaient placés sur les desserts derrière les invités, et donc on faisait signe lorsqu'on souhaitait boire et on vous apportait un verre de vin. Et les vins n'étaient pas assortis aux mets, puisque dans le service à la française, on pouvait avoir aussi bien des plats de poisson que des plats de viande, des mets un peu
amers.
Puis il n'y
avait pas la place non plus pour poser les verres.
Exactement. Et donc, on ne choisissait pas le type de vin en fonction de ce qui était dégusté sur la table, puisqu'il y avait une grande variété de mets, précisément. Et les verres donc étaient entreposés lorsqu'on avait bu. Le domestique les reprenait et les plaçait dans des rafraîchissoirs à verre, dans des espèces de récipients ovales, en général, lorsqu'ils sont communs. Rempli d'eau, on mettait les verres à pied, le pied en l'air et donc la partie dans laquelle on boit à rincer dans ses récipients.
Et l'invité, je crois, buvait d'une traite d'ailleurs.
D'une traite, puisque on ne posait pas sur la table, c'était pas la coutume.
Voilà. Alors, d'ailleurs, à propos de boissons, évoquons tout de suite à la fin du XVIIe siècle l'arrivée d'un vin pétillant qui a fait la renommée de la France et qui l'a fait encore, le fameux champagne.
Alors, le champagne, il est inventé, Pérignon, à l'abbaye d'Auvilliers, près d'Épernay, à la fin du XVIIe siècle. Et nous avons à Chantilly un document essentiel pour la connaissance du champagne. Le célèbre tableau du déjeuner d'huîtres par Jean-François de Troyes, qui est un tableau donc commandé par le jeune roi Louis XV en 1735.
Alors, qui est exposé, c'est une des très belles pièces maîtresses de l'exposition.
Ah bah, c'est un document essentiel pour les manières de table au début du XVIIIe siècle. Et alors, dans ce déjeuner d'huîtres, on y voit de jeunes seigneurs attablés autour d'une table ronde. Table ronde, évidemment, qui tranche. sur la table de Louis XIV au XVIIe siècle, qui mangeait seul à son grand couvert, assis au milieu de la table, avec la cour debout qu'il regardait manger. Et donc là, au contraire, c'est un déjeuner intime. Le roi Louis XV, qui est un tout jeune homme en 1735, il va retenir à dîner auprès de lui quelques-uns de ses amis au retour de la chasse, hein, d'où cette salle à manger dite retour de chasse. Et donc ces jeunes gens sont disposés sans étiquette autour d'une table ronde, il n'y a pas de préséance.
Alors évidemment ce sont des jeunes hommes. Hein. Ça, c'est
des jeunes hommes, on vient de la chasse, ceci dit voilà. Dans le tableau ils portent des habits très chamarrés,
oui.
Qui sont probablement pas des habits de chasse. Hein. Jean-François III sans doute embellit un peu la scène.
Oui.
Et alors la particularité c'est que c'est pas non plus un grand dîner ou un grand déjeuner à la française, c'est une simple collation. Et ces jeunes seigneurs donc mangent tout de même dans de la vaisselle d'argent massif.
Oui. Hein.
Mais ils ne mangent que des huîtres, ils ne boivent que du champagne.
Exactement, on se dégage vraiment visiblement beaucoup de gaieté autour de ce repas.
Oui.
Et ces jeunes hommes sont fascinés par un tout petit objet dans l'air,
le fameux bouchon qui vient de sauter.
Surtout
sur les domestiques qui doivent être un petit peu surpris s'ils n'ont pas l'habitude de servir à la cour.
Effectivement, on n'a pas besoin d'un œil exercé, on repère très bien le fameux bouchon en l'air au milieu du tableau. Alors effectivement, on voit aussi la décontraction là de ce repas mm-hmm. dont vous parlez, qui n'est pas une grande réception, qui a vraiment la renoue avec la convivialité d'abord.
Oui. Avec les écailles qui traînent un peu par terre, une hygiène, on va dire, un peu limite.
Mais on voit quand même un meuble...
On voit un grand rafraîchissoir. Qui est au centre de la composition, voilà. À vrai dire. C'est un joli meuble rocaille. Hein. Oui. On est donc au début du règne de Louis XV. Oui. C'est un meuble à pied tourné de style rocaille. En bois, donc des bénisteries plaquées. Et puis on a au centre donc un récipient métallique qui contient de la glace et dans lequel les bouteilles sont mises à rafraîchir.
Ces repas sont aussi l'occasion de grandes fêtes, de grandes réceptions. C'est l'apanage des princes, bien sûr, mais il y a une fameuse anecdote, Nicole Carnier, qui est celle de l'histoire de
Vatel.
Voilà, racontez-nous les soucis de l'intendant Vatel, jour d'avril 1671, justement.
Alors l'intendant Vatel, qui avait été l'intendant de Fouquet, avant le vicomte, avant de l'être du Grand Condé, avait effectivement, pendant ces 3 jours d'avril 1671, une très lourde charge. Il devait accueillir toute la cour du roi Louis XIV, la reine, le frère du roi, Philippe duc d'Orléans, madame, son épouse, 300 personnes de la cour, 300 invités. 300 invités de marque, ça veut dire le double ou le triple d'aides de camp, demoiselles d'honneur, plus la domesticité nombreuse. Donc c'était quelque chose qui avait été préparé de longue date, car c'était un élément important dans le retour en grâce du Grand Condé, dont on sait qu'il avait trahi la France à la fin de la Fronde, qu'il avait été condamné à mort, exilé, destitué de ses biens, rentré en grâce après la paix des Pyrénées en 1659, mais tout de même exilé sur ses terres de Chantilly et condamné à ne pas trop en sortir jusqu'à ce que le roi veuille bien lui faire signe. Et donc 1671, bien le roi pardonne, le roi qui a correspondu de longue date avec son cousin se dit « je vais aller voir ces fameux travaux de décoration, les jardins de Le Nôtre à Chantilly, je vais visiter finalement le Grand Condé ». Donc, routage pour notre ami Vatel, qui se doit d'organiser ses jours. Le château est alors encore un château quasi médiéval, même s'il est environné de merveilleux jardins à la française, dont il est vrai que Le Nôtre les a mis au point pour le Grand Condé dans les années 1660. Le Grand Canal, donc, est déjà creusé, les jardins sont merveilleux, mais il y a assez peu de chambres. Donc, grosse difficulté. Madame de Sévigné, qui nous raconte l'histoire de Vatel, nous rapporte que Vatel avait installé des chambres, même dans des cabanes où on mettait des arrosoirs, c'est vous dire.
Oui, l'enjeu était de taille.
L'enjeu politique était important. Pour le Grand Condé, c'était vraiment le retour en grâce. Donc, on misait tout sur l'intendant Vatel, qui n'est pas cuisinier, hein, comme on l'a trop vite dit. Il y a beaucoup de restaurants qui portent son nom en France et ailleurs. Il n'a jamais été cuisinier, il est intendant. C'est-à-dire que c'est lui qui a la charge d'organiser, en fait, l'arrivée des invités. Bien sûr, aussi les repas, mais il ne cuisine pas, il ne met pas la main à la pâte. Donc, premier jour, tout se passe bien, sauf au dîner du soir, où le rôti, manque à certaines des tables. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de resquilleurs qui sont arrivés, des invités qu'on n'attendait pas. Donc, la viande manque à certaines tables principales. Le deuxième soir, autre incident.
Le premier souci.
Voilà. Le deuxième soir, autre incident avec le temps. On doit donner un feu d'artifice et malheureusement, le ciel est bouché, il y a beaucoup de nuages et le feu d'artifice ne réussit pas, nous dit Madame de Sévigné. Il coûtait 16 000 francs. Deuxième problème, donc le pauvre Vatel est de plus en plus stressé, comme nous dirions aujourd'hui. Et le troisième jour, qui est un vendredi, qui est donc un jour maigre, eh bien Vatel doit servir le vendredi midi un repas de poisson au roi et à la cour. Il ne semble n'avoir à peine dormi de la nuit. Le matin très tôt, vers 5 heures, il descend en cuisine, donc dans les cuisines du château de Chantilly qui sont conservées, hein, qui sont aujourd'hui ouvertes au public, qui sont notre restaurant, la Capitainerie, aux cuisines de Vatel. Eh bien, il se rend dans ce qu'on appelle le froid, qui est la salle effectivement la plus fraîche du château, qui se trouve en contrebas des douves, et il voit arriver un tout petit peu de poisson. Donc il voit le pourvoyeur, un jeune homme qui arrive de la côte, il lui dit « Est-ce l'atout ?»« Oui, monsieur, c'est l'atout. » Oh, alors c'est le drame pour Vatel, qui ne sait pas en fait que le mauvais temps sévit sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord et que la marée arrivera un petit peu plus tard. Il se sent perdu d'honneur, comme il le dit à son adjoint Gourville, qu'il racontera dans ses mémoires. Il monte à sa chambre, aux étages du château, prend son épée, la coince dans le chambranle de la porte et se passe l'épée à travers le corps, alors que la marée arrive de tous les ports du royaume. Donc le pauvre Vatel était mort pour rien. Et la Gazette de France nous racontera le magnifique repas de poisson servi avec magnificence, c'est le terme, en ce vendredi maigre.
Oui, c'est ça a été un événement d'ailleurs, ce repas de réconciliation, parce que la Gazette, Madame de Sévigné ont raconté cet événement et l'accueil du roi. Citons Madame de Sévigné. Le roi arriva jeudi au soir. La chasse, les lanternes, le clair de lune, la promenade, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. Arrivé au bois des canaux, le roi et la reine rencontrèrent un berceau de feuillage éclairé par 30 lustres et autant de girandoles éclairant 60 vases de porcelaine remplis de jonquilles, de narcisses et d'anémones. Leurs majestés trouvèrent une collation toute servie, étant composée de 40 bassins de toutes sortes de confitures rangés sur ce rond, à l'entour du pied de la même pyramide d'eau, avec une propreté et une politesse surprenantes. Tandis qu'elles satisfirent le goût par cette collation si délicieuse, Louis avait un régal aussi des plus ravissants par un excellent concert de voix. Et là, on a un bon exemple justement de ce qu'on attend des manières de table à cette époque où tous les sens doivent être ravis.
Oui, et les termes importants, c'est politesse, propreté, c'est le siècle de l'honnête homme.
Voilà.
Et le rôle du maître d'hôtel, justement, c'est d'apporter à son maître ces règles qui sont celles de l'époque classique, en fait, puisqu'on a l'époque classique française.
On comprend la lourde pression qui pesait sur les épaules du malheureux Vatel.
Tout à fait. C'est l'époque aussi où on introduit la serviette, qui va avoir un plus grand rôle. On s'essuiera plus les doigts après la nappe. On va commencer à manger avec ses couverts, avec la fourchette, la fameuse fourchette qui date du Moyen-Âge, mais qui a été un peu pratiquée à la cour de France seulement à partir de Catherine de Médicis, qui en était plus habituée puisqu'elle venait d'Italie. Hein, c'était déjà plus fréquent.
Alors, nous allons marquer une courte pause et retrouver Nicole Garnier dans quelques instants pour nous présenter l'exposition des tables princières organisée au musée Condé de Chantilly. Après avoir évoqué la naissance de la table moderne au XVIIe siècle, Nicole Garnier, racontez-nous un petit peu comment ces grands repas, ces grandes réceptions étaient organisées là. Disons, est-ce que vous pourriez nous en raconter une ou nous raconter la visite, par exemple, du Grand Dauphin, le 29 août 1688, qui là aussi c'est un très très grand événement et c'est l'occasion d'évoquer une autre forme, une autre manière de table.
Alors tout à fait.
Toujours dans l'art de recevoir.
Bien sûr. Le Grand Dauphin, donc c'est le fils aîné du roi Louis XIV, on l'appelle Monseigneur.
Oui.
Et donc Monseigneur, qui est un jeune homme, va venir en 1688, pendant l'été, visiter son cousin, le prince Henri-Jules de Condé, donc le fils du Grand Condé, qui est mort en 1686. Alors, un des motifs, bien sûr, de cette visite, c'est de chasser. On chasse beaucoup à cette époque-là. Donc, à peine est-on arrivé aux confins du domaine qu'on va recevoir des chevaux et qu'on va partir pour la chasse. Et puis ensuite, Monseigneur est reçu à la maison de Sylvie, qui est une maison qui se trouve dans le parc, une salle fraîche, comme on disait alors, où on va lui servir une collation, une délicieuse collation avec plusieurs services, on l'imagine bien. Notre fameux service à la française. Et puis, arrivé au moment du dessert, eh bien, pas de service de dessert. On lui dit, Monseigneur, mais votre dessert, il est caché au cœur du labyrinthe, il faut aller le chercher. Et on va envoyer Monseigneur, donc à la recherche de son dessert. Il va donner sa langue au chat, tellement c'est difficile. Alors, on a une gravure.
On a une très belle gravure.
Ouais, oui, une très belle gravure de Dolivard qui nous montre la collation offerte au Grand Dauphin, donc le 29 août 788. Et on voit effectivement dans une salle de verdure, donc qu'on imagine être au cœur du parc de Sylvie, on voit tout un buffet garni d'ailleurs de différentes plantes, de fleurs. Alors c'est pas du tout un buffet de dessert qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Hein.
Oui,
il
n'y
a pas vraiment de gâteau à la crème. Hein. Ce sont plutôt des fruits.
Là, ce sont des fruits, mais des fruits.
Des fruits
frais,
d'une part, puisqu'on est le 29 août probablement, mais aussi des fruits déguisés, des fruits confits et des confitures. C'était surtout en cela que constituaient les desserts qui étaient très très sucrés, très caloriques à l'époque. Enfin, il faut pas oublier qu'on se dépensait beaucoup à la chasse. Et on faisait beaucoup de sport également.
Au moment de l'accueil des hôtes de marque, quelle était justement la petite particularité de Chantilly?
Il y avait tout un cérémonial qui était mis en place sous le Grand Condé. Oui, c'était comme un rituel, effectivement. Oui. Le Grand Condé allait chercher son hôte aux confins du domaine. Donc, il y a un endroit en forêt entre au sud du domaine de Chantilly, sur la route de Paris.
C'est à peu près quelques kilomètres.
C'est à 4 kilomètres exactement, c'est-à-dire une lieue. Comptabilité ancienne. Et au milieu du château se trouve une table en pierre, assez large, qui fait plusieurs mètres, qui existe
toujours
d'ailleurs.
Quand on arrive au château.
Qu'on appelle la table de Montgrésin, du nom du hameau voisin. Et donc cette table est au centre d'un carrefour en étoiles qui était dessiné d'ailleurs par André Le Nôtre, le fameux jardinier de Versailles comme de Chantilly, afin de pratiquer la vue, c'est-à-dire de rechercher les animaux, cerfs, sangliers, qui vont être pourchassés en forêt. Et donc sur cette table, lorsqu'on allait accueillir un hôte de marque, eh bien on dressait une tente. Et on apportait des plats chauds à 4 km du château à une lieue. Donc c'est quand même une grande distance.
Ouais.
Et les plats chauds étaient apportés donc sous leur cloche d'argent et on servait une collation chaude à l'hôte de marque. Alors on faisait mine de ne pas s'asseoir, de laisser l'hôte évidemment s'asseoir seul. Et puis bien évidemment, tout le monde finissait par se mettre à table et ainsi l'accueil était fait. Puis ensuite on partait à la chasse. Et ce n'est qu'ensuite, après plusieurs heures de poursuite de l'animal, qu'on arrivait au château où un dîner somptueux était dîné, bien sûr, était donné.
Grand sens donc de là de l'accueil. Parlons un petit peu du personnel des princes de Condé.
Personnel nombreux.
Ça représentait combien de personnes?
C'était à peu près 300 personnes au temps des princes de Condé. C'est beaucoup plus sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, que ce ne sera, par exemple, sous le duc d'Aumale au XIXe siècle.
Et où travaillait-il dans le château?
Alors, il travaille dans les sous-bassements du grand château, principalement, qui est le principal des deux bâtiments qui forment le château de Chantilly à l'époque. Et c'est à peu près les deux tiers de la superficie d'un niveau du château qui est dédié aussi bien à la cuisine qu'aux salles à manger du personnel, salles à manger du commun, disent les plans, que, par exemple, à l'échansonnerie, aux gardes-vaisselle, aux offices, à la lingerie.
Et il n'y a pas non plus de salle à manger attitrée.
Alors, il y en aura seulement au XVIIIe siècle.
Voilà,
pour la partie du XVIIe siècle, nous n'en avons pas.
Voilà. Donc, on dresse dans les salles du château, mais sans que cette fonction ne soit attribuée à l'une d'entre elles.
Absolument. C'est un peu en fonction du nombre des invités, un peu en fonction de l'aspect.
On dresse la table, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
sur des tréteaux. Avec des nappes, voilà, tout simplement.
Alors, toujours à cette période, on construit un petit hameau dans le sens et l'évolution du goût, d'un rapprochement
avec
la nature. Et justement, dans ce hameau construit, dans ces chaumières, on reçoit, là aussi,
Alors là, on est en 1775, c'est la fin du XVIIIe siècle, c'est l'époque de Jean-Jacques Rousseau.
Voilà.
On aime la nature. D'ailleurs, notre hameau de Chantilly inspirera...
A servi de modèle ou de référence.
Oui, il va inspirer l'architecte Richard Mick pour le hameau de la reine Marie-Antoinette à Versailles. Si la reine n'est jamais venue, son architecte est sans doute lui venu. Il s'est inspiré de ces maisonnettes rustiques que le prince Louis-Joseph de Condé avait fait construire dans la partie orientale du parc pour accueillir quelques invités. Là, effectivement, c'était pas des foules, c'était quelques dizaines au maximum d'invités qu'on pouvait recevoir. Et dans ces maisonnettes, en fait, chaque invité pouvait découvrir une surprise. Quand on arrivait, on voyait des maisons paysannes, à colombage, très simples d'aspect.
Oui.
Et puis, surprise, quand on ouvrait la porte, par exemple, celle qui avait la fonction de salon, eh bien, était d'un luxe inouï à l'intérieur, des soieries roses, du mobilier d'argent, qui contrastait avec l'aspect extérieur de la maisonnette. Il y avait une autre maison, bien sûr, qui était une salle à manger, car à cette époque-là, la salle à manger existe dans les intérieurs aristocratiques comme bourgeois, du reste. Et dans cette salle à manger, alors là, la surprise était de taille, parce que croyant entrer dans une chaumière, eh bien, on découvrait à l'intérieur un sous-bois, car les murs étaient peints de fresques qui représentaient donc l'intérieur d'une forêt et une clairière. Le sol était sablé, avec des plantes vertes sur le sol, et donc on déambulait au cœur d'une forêt. Alors cette maison existe toujours, et le duc d'Aumale a fait au XIXe siècle reprendre les murs, donc on est encore aujourd'hui au cœur d'une forêt lorsqu'on entre dans la salle à manger du hameau.
Et vous exposez d'ailleurs les plans de ce hameau.
Oui, on expose un relevé très précis qui a été fait en 1784 pour un autre célèbre de Chantilly, qui est le fils de la grande Catherine de Russie, qu'on appelait le comte du Nord, qui a été ensuite le futur tsar Paul Ier. Et lorsque Paul Ier est venu à Chantilly, il a adoré le site de Chantilly au point que le prince de Condé lui a fait faire un relevé de l'ensemble des jardins, des châteaux et du hameau de Chantilly.
Alors, à la Révolution, les princes de Condé émigrent au lendemain de la prise de la Bastille. Mmh. Sous la Restauration, ils retrouvent leur château à demi rasé et souhaitent évidemment renouer avec les fastes d'antan. Et ils vont donc entreprendre non seulement de le reconstruire, mais d'accorder beaucoup de temps, d'énergie à l'organisation possible de grandes réceptions, de grandes fêtes. Alors, dans cette perspective, ils vont commander des pièces de porcelaine, de verrerie, qui sont exposées justement à Chantilly en ce moment.
Nous présentons notamment la très belle porcelaine de Paris qui a appartenu au dernier prince de Condé, qu'on appelle le duc de Bourbon, celui qui meurt en 1830 et qui léguera le château de Chantilly à son petit-neveu, le duc d'Aumale. C'est vrai que quand ils sont rentrés d'émigration, les princes de Condé n'avaient plus rien. Plus l'argent massif, plus le vermeil qui ornait les tables de Chantilly sous l'Ancien Régime, nous n'avons plus rien. Juste une cuillère et une fourchette qu'on a trouvées lorsque le duc d'Aumale a curé les douves en 1879. Tout le reste a été fondu, dispersé et se trouve parfois conservé dans de grandes collections publiques, mais hors de Chantilly. Alors évidemment, ils vont commander de la vaisselle et de l'orfèvrerie. Entre autres, ces deux services en porcelaine de Paris au chiffre des Bourbon-Condé. Donc c'est une porcelaine blanche avec un chiffre B et C, les initiales donc de la famille de Bourbon-Condé. Et puis également un service avec des paysages et des fleurs très belles.
Alors, je voudrais qu'on évoque là une des aussi des très grandes pièces maîtresses de l'exposition, qui est le grand surtout des châsses, qui est un cadeau en fait.
C'est
de
un
Louis
cadeau
Philippe,
effectivement du roi Louis-Philippe à son fils
pour son mariage. Racontez-nous.
Donc, on est en novembre 1844 et le duc d'Aumale effectivement prend épouse. Il épouse une cousine germaine napolitaine, une Bourbon-Sicile, la princesse de Salerne, Marie-Caroline. Et donc au moment de son mariage, effectivement, comme tout bon père de famille, Louis-Philippe et Marie-Amélie vont pourvoir leurs enfants du nécessaire. Donc il choisit à la manufacture royale de Sèvres un modèle du XVIIIe siècle qui n'avait pas eu un grand succès, il faut le dire. C'est des pièces de vénerie d'un nommé Blondeau. Donc ça représente différentes figurines, on en a une douzaine, c'est du biscuit de Sèvres. Donc des figurines qui font 30 à 40 centimètres.
Oui, c'est assez imposant. Parce que là, vous l'avez présenté sur la grande table de la galerie des Serres. Et...
Ah, la table est très imposante elle-même. La table sur laquelle elle est présentée, qui date de 1880, de la fin de la vie du duc d'Aumale, après la construction du château. Elle fait effectivement 9 mètres de long par 2,50 mètres de large. Et ces figurines en biscuit de Sèvres qui présentent des scènes de chasse à court, un alali du cerf, un alali du sanglier, un piqueux qui tire au fusil, un piqueux qui tient ses limiers, ses chiens de meute.
Il y a des candélabres.
Il y a des candélabres immenses, en bronze doré magnifique, qui sont aux armes des Orléans. Une autre série de candélabres qui représente les quatre saisons. Enfin, tout un ensemble d'objets qui garnit cette table royale. C'est vrai que 9 mètres par 2,50 mètres, c'est assez impressionnant. Et puis au centre, il y a un chemin de table. Ce sont des plateaux de miroir avec
très,
un soubassement de bronze doré qui fait à peu près 15 à 20 centimètres. Et donc ce chemin de table, en fait, avait pour principale vertu de refléter les bougies qui étaient placées sur les nombreux candélabres qui garnissaient la table. Alors c'est vrai que c'est très impressionnant quand on arrive et on s'imagine mal comment les invités pouvaient adresser la parole aux invités qui étaient de l'autre côté. On se parlait surtout à sa gauche et à sa droite. Et on ne parlait pas aux invités de l'autre côté de la table parce que c'était pas possible. On se voyait à peine.
Ça devait être magnifique, ce jeu de lumière.
Oui, pendant les soupers, pendant les dîners.
Vous avez essayé?
On n'a pas mis de bougie dans le château, vous imaginez bien, pour des raisons de
Quel
sécurité.
Dommage.
Mais on imagine ce que ça pouvait donner.
Ça devait être très, 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 très beau.
Et alors, à cette période-là, autour de cette table, on est à la fin du 19e siècle, là, en fait. Puisque le château a été reconstruit en 1875, même s'il surtout est un petit peu plus ancien, il date des années 1840.
Oui, le surtout a été acheté dans les années 1840.
Voilà, au moment du mariage, mais il sera utilisé jusqu'à la mort du duc d'Aumale en 1897. Et donc à ce moment-là, on est servi à la russe, c'est-à-dire que c'est nos manières de table actuelles qui sont implantées en France et qui nous viennent de Russie, en fait, notre service actuel, où on est servi à table avec un maître d'hôtel donc qui passe l'assiette, qui passe le plat à l'invité qui va se servir, Ça, c'est le service dit à la russe.
À la
russe. Qu'on ne sait pas, on croit manger à la française, on mange aujourd'hui à la russe.
Pour la première fois, là, vous ouvrez au public la galerie d'office, qui est un lieu intermédiaire entre le salon de réception et les cuisines.
Oui, tout à fait. Alors, cette galerie d'office, elle date aussi donc des années 1875 à 80. Effectivement, elle fait le lien entre les cuisines qui sont au rez-de-chaussée du château. Il y a un escalier qui les sépare de la salle à manger et de l'office. Donc, les marmitons apportent les plats dans les cuivres. On les place ensuite dans un réchaud qui se trouve à l'entrée de l'office. C'est un réchaud assez grand, qui fait facilement 2 mètres de large, qui est chauffé à gaz, car le château de Chantilly, dans les années 1880, est un des châteaux
à la pointe
les plus
de la modernité.
Qui soit. dans un ouvrage de 1884, le grand chef de cuisine Jules Gouffier dira dans son livre de ménage « Tout le monde n'a pas à sa disposition les cuisines de Ferrières ou de Chantilly, qui sont les deux références en matière de cuisine moderne et fonctionnelle, dirait-on aujourd'hui. » Donc on place les plats dans leur cuivre à l'intérieur de ce réchaud, de ce chauffe-plat, pour les tenir au chaud, et les maîtres d'hôtel vont découper les viandes et les dresser. Donc on a de grands buffets, de grandes tables, le long des murs, où les serviteurs, où la domesticité nombreuse du duc d'Aumale lors des grandes réceptions, hein, s'il a eu assez peu de domestiques à l'année longue, il y a beaucoup de monde lorsqu'on reçoit pour des réceptions un peu exceptionnelles. Et donc les maîtres d'hôtel découpent les viandes, les dressent, avant de les placer donc sur la table des seigneurs, qui est tout à fait à côté. Alors il y a de grands vaisseliers où on peut voir les pièces les plus fastueuses des collections de Chantilly, entre autres la porcelaine des Bourbon-Condé, qui date du début du XIXe siècle, ou si la verrerie du duc d'Aumale. On peut y voir aussi l'orfèvrerie. Il y a une partie des cuirs et de la vaisselle étamée, qui est la vaisselle toute simple dont se sert la domesticité du duc d'Aumale pour ses besoins.
Et il y a aussi un service réalisé pour le personnel.
Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la porcelaine d'office.
La porcelaine d'office.
Alors, c'est la même porcelaine que le prince. C'est une porcelaine blanche avec un chiffre haché haut, donc pour Henri d'Orléans, couronné, puisqu'il est fils de roi, duc d'Aumale. Mais si la vaisselle du duc d'Aumale porte ce chiffre HO en or, avec un filet doré sur le marli, sur le pourtour de l'assiette, le service d'office destiné à la domesticité ou au cadre de la maison va être tout simplement bleu. Donc un service beaucoup plus modeste, très mais simple. Au chiffre du maître de maison.
D'ailleurs, quels étaient les liens entre le duc d'Aumale et son personnel?
Ah, bah, c'était des liens étroits. On a des photographies du personnel qui posent sur les marches du château. On voit que c'est des liens quasi familiaux. Hein. Ils sont très attachés à Chantilly. Oui, oui. Ils sont en petit nombre à la fin du 19e siècle, encore une fois. Et puis, on embauche des extras quand le besoin s'en fait sentir.
Et une photographie dans le catalogue.
Oui, qui humanise un petit peu
cette galerie des offices qui, effectivement, a l'air un peu figée comme ça. Mais la splendeur des pièces relève tout de suite l'intérêt. Marquons une courte pause et retrouvons dans quelques instants Nicole Garnier venue nous présenter l'exposition Table princière au musée Condé de Chantilly. Nous sommes en compagnie de Nicole Garnier, conservateur en chef du patrimoine au musée Condé de Chantilly, pour évoquer la grande exposition organisée en ce moment, Table princière à Chantilly du XVIIe au XIXe siècle. Alors nous évoquions tout à l'heure les réceptions du château de Chantilly, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les collections des services du duc d'Aumale, en particulier sur les services de verrerie, qui sont également très très belles. Vous pourriez nous décrire un petit peu ces collections?
Il y a plusieurs services de verrerie, la plupart d'entre elles ont été acquises par le duc d'Aumale et son épouse au moment de leur mariage, donc en novembre 1844. Alors certaines sont des cadeaux lointains, la princesse de Salerne, l'épouse du duc d'Aumale, et la petite-fille de l'empereur François II d'Autriche. Sa mère, la princesse Marie-Clémentine, est une Habsbourg. Et donc, elle va recevoir un service de verrerie de Bohême. C'est la manufacture de Lobmeyer à Vienne, qui va fournir une partie des cristaux somptueux qui sont d'ailleurs placés en partie sur la table qui est dressée pendant l'exposition. Oui. Donc, ce sont des verres gravés, des verres quadrilobés en général, donc transparents, mais avec tout un dessin floral, en fait, qui court sur le verre et qui est assez magnifique, de couleur plutôt blanche.
Oui.
Donc, des verres extrêmement fins et d'une légèreté.
Très, très,
enfin, vous ne pourrez pas les toucher si vous venez voir l'exposition à Chantilly.
Oui,
mais
on
imagine leur légèreté rien qu'en les voyant. Et puis il y a d'autres services, bien sûr, de verrerie, entre autres un service, là encore de cristaux de Bohême, vert. Alors c'est un service beaucoup plus massif, avec des émaux, avec les armes du duc d'Aumale, donc les armes d'Orléans émaillées, de couleurs vertes, bleues, jaunes, donc c'est extrêmement coloré, très différent donc du service précédent. Et puis il y en a un troisième, qu'on appelle le service au serpent, Car le long des vers à pied court effectivement un serpent,
oui,
dont la tête apparaît sur le bas de la partie qui contient le liquide. Et donc ce service dit au vers, au serpent, il a été produit par la cristallerie de Clichy-le-Roi. C'est un cadeau donc du roi Louis-Philippe à ses enfants. C'était une manufacture donc qui s'était développée dans les années 1840 et Louis-Philippe, qu'on a appelé le roi bourgeois, développait beaucoup cette industrie parisienne et donc il a contribué ainsi à faire connaître ses productions. Alors ce service au serpent, eh bien il est assez célèbre, assez remarquable. Et là aussi, il est de couleur bleue et blanche. Donc, il y a des couleurs vives qui animent aussi ces dîners sur cette table avec cette grande nappe blanche.
Le duc d'Aumale a aussi acheté un grand surtout animalier qu'il a acquis en 1870. Le surtout animalier qu'on appelle le surtout animalier de Barry, qui représente une quinzaine de figurines de petite taille. Alors, que représentent-elles, Nicole Garnier, ces petites figurines et combien de temps Barry a mis pour les faire? Qu'est-ce qui fait la célébrité de ce surtout?
Alors,
et
l'originalité
de ces pièces, parce qu'elles sont quand même sublimes, très belles,
oui, et c'était un des objets auxquels le duc d'Aumale tenait le plus puisque dans son testament, il a marqué d'une croix rouge ces pièces, comme un des objets remarquables, au même titre que le diamant rose ou les trésors du duc de Berry. Alors, ces 15 figurines, eh bien, ça représente surtout pour le duc d'Aumale, je crois, un souvenir de famille.
Oui.
Car son frère aîné, le duc d'Orléans, le prince royal, oui, le fils aîné du roi Louis-Philippe, qui est mort accidentellement en 1842, d'un accident de voiture à cheval, à l'âge de 32 ans, eh bien, avait commandé au sculpteur animalier Barry un très grand surtout qui ornait sa table aux Tuileries, mais qu'il a utilisé très peu de temps puisqu'il est mort très prématurément. Et le duc d'Aumale, en souvenir de son frère, et qui a d'ailleurs racheté, le duc d'Aumale a racheté tout au long de sa vie plusieurs œuvres d'art, qui a appartenu à son frère aîné et qui était aussi un grand mécène, eh bien a tenu à acquérir en vente publique en 1870 des éléments qui viennent non pas du surtout de son frère, mais qui le lui rappellent, puisqu'il s'agit là encore de sculptures de Barry, donc le grand sculpteur animalier du 19e siècle. Alors ça peut être des figurines de chasse à cour, ça peut être des combats entre animaux, c'est des petits objets d'argent qui font 10 à 15 cm de haut, et qui en fait ne constitue pas un chemin de table, comme on pourrait se l'imaginer, comme certains visiteurs pourraient le penser en les découvrant dans nos vitrines. Mais c'était au contraire des poignées de préhension pour prendre ces grandes cloches d'argent étaient seules, donc qui garnissaient les tables.
Voilà, donc là.
Des poignées, en quelque sorte. Et elles sont garnies en dessous d'un axe chevillé qui permettait donc de les fixer sur ces cloches. Donc, une acquisition majeure, en fait, du duc d'Aumale dans les années 1870. Alors l'orfèvrerie du duc d'Aumale, elle était assez nombreuse. Il y avait déjà dans les collections du duc un service d'orfèvrerie important qui est celui de Christophe. Christophe qui là encore est une de ces maisons parisiennes que le roi Louis-Philippe a soutenues de son action. Et il a beaucoup développé le goût pour cette orfèvrerie qui est une orfèvrerie de plaqué. Autant avant la Révolution, on mangeait dans de l'argent massif ou dans de l'or massif. Avec Christophe, à partir des années 1840, on va mettre au point le procédé par électrolyse, en fait. Oui. Donc, c'est un métal tout à fait médiocre sur lequel on va plaquer une feuille d'argent ou une feuille d'or, selon les cas. Donc, dans le cas de Chantilly, c'est une orfèvrerie qui paraît tout aussi brillante et belle que de l'argent massif, mais beaucoup plus légère, en fait, au poids.
Alors, évoquons enfin, pour finir un petit peu l'entretien, les réceptions du duc d'Aumale à la fin du XIXe siècle. La volonté du duc d'Aumale de faire de Chantilly un lieu prestigieux où les invités se succèdent a été sa priorité, mais ça a été aussi une de ses grandes réussites.
Bien sûr.
Puisque le beau monde de Paris, mais que ce soit des représentations, des personnalités politiques, mais aussi du monde des arts, de la littérature, se sont pressés à Chantilly pour répondre aux invitations du duc d'Aumale.
À partir de 1880, à partir de l'inauguration de la Galerie des Serres, donc il y a la grande salle des banquets.
Qui est inaugurée justement
grande pompe, avec entre autres la Biche, Sardou, enfin on imagine toute cette population du 19e siècle, tous les artistes,
les intellectuels célèbres qui sont...
La fin du 19e sont venus. Il y a beaucoup de têtes couronnées, forcément, dans l'entourage du duc d'Aumale. Donc, on va trouver aussi bien l'impératrice Sissi, l'impératrice Élisabeth d'Autriche, qui est une parente du duc d'Aumale, puisque sa sœur Sophie est la duchesse d'Alençon, donc la petite nièce par alliance du duc d'Aumale. Sissi qui va venir à Chantilly, donc en 1882. Donc, elle arrive par le train, le duc d'Aumale va l'accueillir, la conduit à la chasse, parce que Sissi est une grande cavalière, elle adore la chasse à cour, et les forêts de Chantilly sont giboyeuses, et puis ensuite, on vient au château. Alors, on va pas servir un grand dîner, parce que vous savez, Sissi, elle est quasi anorexique, dirait-on aujourd'hui. Elle fait 1m72, elle pèse à peine 50 kilos et elle mange très très peu. On va lui servir un luncheon, dit en anglais le duc d'Aumale dans son agenda, puisque nous avons exposé dans notre présentation, dans les vitrines, les agendas du duc d'Aumale, où il raconte lui-même ses réceptions. Et alors, donc, il s'étend beaucoup plus sur la chasse à cour que sur le luncheon offert à Sissi, mais il le conclut. L'impératrice est très aimable, très originale, et il y ajoute en anglais, comme toujours lorsqu'il parle de chevaux, Can galope, elle sait galoper.
Beau compliment.
Beau compliment pour ce cavalier émérite qu'était le duc d'Aumale, bien sûr. Qui a conquis le sabre à la main, la Smalade à Delcader en 1843. Donc un grand cavalier à la fois militaire et de vénerie. Alors il n'y a pas que des têtes couronnées, s'il y a bien sûr la famille d'Orléans, il y a également le prince et la princesse de Galles, le fils aîné de la reine Victoria qui vient souvent en France, qui est un ami proche du duc d'Aumale.
Et puis il y a aussi des membres de l'Institut.
Énormément, alors on reçoit un peu par catégorie. Le duc d'Aumale va accueillir aussi bien l'Académie des Beaux-Arts, hein, ses confrères, que par exemple le dîner des bibliophiles français qui va se tenir à Chantilly, que la Société des Amis des Livres, le duc d'Aumale est un grand bibliophile, donc on fait souvent des dîners de bibliophiles à Chantilly, et j'imagine qu'après le dîner, eh bien, on va dans le cabinet des livres et on découvre les livres précieux. Alors, le dimanche midi, le duc d'Aumale organise deux grands déjeuners.
Oui, comment se déroule ce déjeuner du dimanche à Chantilly?
Toujours un rituel à peu près immuable, c'est presque toujours le même. Donc, les invités arrivent par le train, on est dans les années 1890, donc le train existe, on met déjà 25 minutes pour aller à Chantilly. C'est très peu, hein, 42 kilomètres, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc les calèches envoyées par le duc d'Aumale viennent chercher les invités à la gare. On arrive donc en traversant les grandes écuries, qui donnent une arrivée tout à fait fastueuse sur le château. On descend de voiture dans la cour de la capitainerie, la cour basse, devant d'ailleurs l'entrée des cuisines et l'entrée privée de l'appartement du duc d'Aumale. Le duc d'Aumale attend plus souvent en haut de l'escalier d'honneur. Alors soit il a revêtu son habit de l'institut, si c'est des confrères académiciens qu'il va accueillir, soit il est en uniforme de général, soit le plus souvent en habit de ville. On commence par visiter les grands appartements, on découvre donc les appartements 18e, la chambre du prince, la galerie des batailles. Le duc d'Aumale va commenter l'histoire de ses prédécesseurs, notamment du Grand Condé. Il a une fascination pour le Grand Condé. Il écrit d'ailleurs une histoire monumentale des princes de Condé. Il s'identifie un peu au Grand Condé qui, comme lui, s'est illustré à 21 ans. Alors l'un à la bataille de Rocroi, l'autre à la prise de la Smala. Et puis après cette découverte du château 17e et 18e, eh bien on passe à table. Donc on accède à cette grande galerie des serres qui est la salle des banquets. Quelquefois, on va avoir des musiciens qui vont être placés dans la tribune, qui dominent la porte d'entrée de plusieurs mètres et qui vont jouer donc soit du violon, soit de la harpe. Quelquefois, pour les repas de Saint-Hubert, les repas de chasse du 2 novembre, on aura aussi des sonneurs de trompe. Et dans le château, je peux vous assurer que c'est retentissant. Hein. Et puis ensuite, donc, on déjeune. Et après le déjeuner, eh bien, on passe dans la pièce voisine, qui est la galerie de peinture. Et là, le duc d'Aumale, eh bien, va faire découvrir la collection de tableaux qu'il commentera d'une manière assez immuable, là aussi, cependant que les invités prennent le café, les liqueurs et fument.
Voilà. Alors, Nicole Garnier, il me reste à vous remercier pour nous avoir présenté cette très belle exposition Table princière à Chantilly. J'invite tous nos auditeurs à s'y précipiter. Vous savez faire la crème Chantilly ?
Un petit peu.
C'est là qu'elle a été inventée?
C'est là qu'elle a été inventée, à la fin du XVIIIe siècle. Effectivement, dit-on par erreur, on attribue cette invention à un cuisinier du prince de Condé qui aurait fait tomber, dit-on, du sucre dans la crème fouettée. En tout cas, c'est une des spécialités de notre beau château et de notre ville.
Nicole Garnier, merci.
Merci de m'avoir accueillie.